Monsieur Gauthier, bien le bonjour.
Bonjour Valérie, ça va bien?
Hey, c'est notre dernière.
Hein, oui, hein?
Oh,
C'est plate,
de la
hein?
saison.
Ben, oui, probablement de la saison. À vrai dire, il y a une petite pause qui s'en vient. C'est sûr je reviens en septembre. Sûr, sûr, sûr. C'est drôle, hein, parce que normalement, quand j'arrête avec toi pendant un certain temps, il fait super beau dehors, puis hey, il fait-tu pas beau dehors?
C'est pas le cas. C'est pas le cas. On va en parler d'ailleurs en deuxième
Ben, on va
partie
essayer,
chronique.
En tout cas.
D'abord, tu veux revenir sur la fameuse crise des opioïdes. On pense
Oui.
que ça arrive juste aux autres,
Oui.
mais non.
Et il y a une drôle, ben pas une drôle d'étude, mais il y a une étude qui est sortie assez frappante. Et suite à cette étude-là, il y a des recommandations qui ont été faites. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Écoute, au Canada, en 2016, Valérie, il y a eu 2946 morts reliées à la consommation d'opioïdes, OK? Dans toute une année. En 2017, les chiffres viennent de sortir et de janvier à septembre, il y a eu 2923 morts. Donc, on est à 23 morts près pour une demi-année.
Ouais.
C'est juste pour dire à quel point qu'on a plus ou moins le contrôle là-dessus. Et la majorité de ces décès-là, c'était des décès qui étaient dits accidentels. Okay? La question que je me posais un peu, c'est accidentel, c'est-tu parce qu'on a des gens qui consomment de façon illégale et que la mort est accidentelle? Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas des gens qui voulaient aller vers la mort,
Oui,
finalement, et
oui.
les utiliser, finalement, là. Donc, c'est un peu de dire qu'il y en a peut-être trop en circulation. Et la chose à savoir, c'est que juste au Québec, il n'y avait pas autant de cas de ça que ça, évidemment, sauf que tout ce qui était de fentanyl et ses analogues, là, OK, le fentanyl, on a entendu beaucoup, beaucoup parler. Il y avait 72% des cas en 2017 au Québec que c'était relié au fentanyl ou à ses analogues, OK? Donc, c'est une crise qui est hyper importante. Et pourquoi une des raisons que j'en parle, c'est que il y en a beaucoup en circulation. On en prescrit beaucoup, on en voit beaucoup. C'est extrêmement efficace, mais je dirais souvent, c'est une porte de sortie facile. Et en ce sens-là, il y a des recommandations qui ont été faites et les pharmaciens et les médecins, on va être beaucoup plus surveillés au niveau du DSQ. Le DSQ, c'est le dossier Santé Québec. Okay? Et dans le dossier Santé Québec, on peut facilement voir les prescriptions qui ont été faites et les prescriptions qui ont été servies. Donc, on sait où ça a été servi, puis on sait où ça a été prescrit et par qui. Au niveau des médecins, la surveillance, elle a quand même pour but d'encadrer, d'ajuster la pratique des médecins. Okay? Et peut-être de dire, dans certains cas, ben, peut-être qu'on prescrit un petit peu trop facilement ce type de molécule-là.
Ouais.
Peut-être que le patient fait trop de pression au niveau de cette molécule-là et que des fois, on ne va pas aller chercher des traitements qui sont connexes à ça. Parce qu'il y a des traitements qui fonctionnent super bien, qui n'ont pas le même mécanisme d'action, mais que des fois, il faut l'introduire tranquillement, il faut arriver à quelque chose, c'est plus long un petit peu, mais on arrive au même genre de soulagement. Fait que des fois, il y a une façon de travailler différente. Ceci étant dit, le Collège des médecins travaille sur un guide de pratique des opioïdes. Donc, la crise est tellement importante qu'ils se sont penchés là-dessus pour essayer de guider les praticiens pour dire, écoutez, peut-être qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Au niveau des pharmaciens, je te dirais qu'au niveau du DSQ, ils vont vérifier. Puis les pharmaciens, ce qui est ciblé, c'est le vol et le trafic. Malheureusement,
Ah
du
ouais.
trafic d'opioïdes, il y en a. Il y a des pharmaciens qui se sont déjà fait prendre pour ça. Et le vol, ben encore là, c'est quelque chose qui arrive en pharmacie, là. Moi, j'ai toujours en blague, on vend de la drogue légale, mais on vend de la drogue quand même. Donc, du
Et oui,
vol.
t'as du chocolat à pharmacie.
Oh, oui. Oui, il y en a qui trouvent que c'est de la drogue, du chocolat. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on peut avoir des vols un peu comme un vol à l'étalage, mais quand c'est en pharmacie, ça devient beaucoup plus dangereux.
Ben oui.
Et du vol à l'interne aussi, ça peut arriver. Fait qu'ils vont vérifier à ce niveau-là aussi. Alors, les règles sont en train de changer un petit peu, puis je pense que c'est pour le mieux.
C'est pas tout le monde qui réagit pareil non plus. Moi, dans un cadre médical, lors d'une
Oui, mais
intervention,
toi.
j'ai pris un fentanyl une
OK.
fois. Je me souviens plus de rien.
Non, mais probablement que c'était pas de la du fentanyl, c'est vraiment un dérivé de fentanyl, de
Oh
la
mon Dieu,
morphine. Ah, toi, t'as dû
c'est
partir
épouvantable. Non,
complètement
mais
avec ça.
non, mais c'est pour ça. Si t'es accro, c'est arrivé une fois, là. Quand
Oui.
tu deviens accro à ça,
Oui.
que ce soit accidentel, je suis même pas surprise parce que tu dois même plus avoir conscience de
Oui.
où t'es rendu
Oui,
dans ta
puis l'autre affaire,
consommation.
c'est que c'est un médicament, c'est un peu sournois, hein, parce que tu peux avoir quelqu'un qui prend beaucoup de morphine, qui n'a pas pris auparavant de la morphine, tu peux avoir une diminution de la fréquence respiratoire. Et c'est ça le problème. C'est quand les doses augmentent trop puis tu es vulnérable à ça, tu vas avoir une diminution de ta respiration. On sait où ce que ça mène, là. Et l'autre chose, tu sais, Valérie, moi, si j'étais ton médecin, là, puis je te prescrivais de la morphine pour ta douleur, là, je serais zéro inquiet sur le fait que tu deviennes dépendante à ça.
Je prends même pas de Tylenol.
Mais, et ce n'est pas dans ta nature, ouais. OK? Mais il faut comprendre une chose, et c'est pas un reproche que je fais à des patients qui vont développer une dépendance à ça.
J'ai peut-être été chanceuse aussi de ce côté-là pour ma santé. J'ai jamais eu besoin de prendre quelque chose qui...
Peut-être pas nécessairement, c'est puis peut-être ça. Que toi, j'aurais de la misère à te traiter. Parce que toi, tu réagirais mal à la morphine aussi. Ouais. Sauf qu'en même temps, si tu réagissais bien et que je t'en donnais... Ben, j'aurais aucun problème à dire, Valérie, pars avec 30 comprimés, là, je suis certain que tu vas pas me vider ça en deux jours, là. Sauf qu'il y a des gens qui vont se faire traiter une fois pour une douleur chronique et qu'on va se ramasser avec un patient qui a une accoutumance sévère et qui est pas capable de s'en passer. Mm. Quelqu'un qui est là-dessus et qui en a besoin, les signes et symptômes de sevrage, c'est pas juste psychologique, c'est physique aussi. Donc, notre patient qui est plus enclin à ça, ben, à la limite, faut l'aider, là. Faut l'encadrer comme il faut, puis il faut le prescrire comme il faut, puis il faut y donner comme il faut, puis il faut le contrôler comme il faut. Des gens qui ont fini sur la méthadone à cause d'une prescription de dilodide, qui est un dérivé de morphine, j'en ai vu. C'est pas des mauvais patients, c'est pas des mauvaises personnes. Ils sont contents d'essayer de s'en sortir.
Ouais.
C'est juste pour dire à quel point que ça peut être susceptible d'un problème et qu'il y a des gens qui sont vulnérables et comme professionnels de la santé, et là, je nous inclus tous là-dedans, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, il faut tout faire attention de la manière qu'on les donne et de la manière qu'on fait surtout nos suivis. C'est hyper important.
On prend ça un petit deux minutes pour parler de soleil?
C'est incroyable, finalement, il va falloir que je revienne. Hey, je fais juste dire, c'est parce qu'il fait pas beau, puis quand je préparais ma chronique, je disais, je peux pas passer à côté. Alors, deux choses, le soleil, je répète, je suis allé jouer au golf dans le sud il n'y a pas si longtemps. C'était nuageux, j'ai mis de la crème, j'en ai pas remis deux heures plus tard. De grâce, mettez de la crème solaire.
Même s'il fait froid, là.
Même s'il fait froid.
C'est une question de rayons solaires.
Et voilà, les UVB passent, c'est les rayons qui sont très, très puissants, OK? Donc, quand il y a des nuages, ils passent pas bien au travers les nuages, mais les UVA qui sont plus faibles un peu passent à travers les nuages, passent à travers les fenêtres. Donc, dès que vous sortez dehors, même si c'est nuageux, si vous passez 15 minutes dehors avec un UVA, ça va faire moins dommage à la peau qu'un UVB si c'est plein soleil. Par contre, si vous restez dehors longtemps, votre peau est susceptible de causer un dommage, finalement.
Et surtout qu'au mois d'avril, comme ça, on n'est pas habitué à cette inclinaison de rayons. Ma petite peau de rousse là, peut te dire que des fois, j'ai des plaques ou des petits boutons que je n'aurais pas nécessairement au mois d'août parce que ma peau n'est pas du tout habituée.
Tu n'as pas un fond là-dessus. Puis là, mais l'autre affaire, puis il faut faire attention, hein, parce qu'on va penser qu'on a un fond de bronzage, fait qu'on est correct.
Mais
le
non,
dommage
non,
va être là quand même.
Ben
et l'autre chose, c'est que quand
un
le soleil
fond de
sort...
Quoi? Je connais pas
tout
ça.
Non. Mais quand les gens sortent dehors et qu'il fait soleil, ils sont super contents, fait qu'on met pas de crème, ça m'est déjà arrivé à moi-même, là. Et la crème, essayez de la mettre une demi-heure avant de sortir, c'est important si vous la mettez tout de suite, puis que vous sortez tout de suite, je veux dire, puis vous la mettez.
Ça n'a pas le temps de...
Mais voilà, fait qu'ils peuvent avoir quand même un dommage à la peau. Fait qu'une demi-heure avant, on en met à chaque deux heures. Si vous allez dans l'eau, si vous transpirez, vous en remettez. C'est marqué waterproof, ça ne l'est pas vraiment. Au niveau de l'efficacité, ça va diminuer, OK? Donc, mettez-en. Et dernière chose, pour les allergies de cet été, on pourra peut-être en reparler si je viens te revoir, mais les allergies, souvent, on va prendre des pilules hein, contre l'allergie, puis c'est bien correct, ça fonctionne. Je vous relance la réflexion sur tout ce qui est de gouttes ophtalmiques. Okay? Il y en a sous prescription qui sont chères et qui sont excessivement efficaces aussi, mais il y en a qui sont en vente libre et qui valent la peine. Et des fois, on les en arrière du comptoir, demandez à votre pharmacien. Il y en a sur les tablettes qui ne valent pas nécessairement grand-chose tout le temps, ou des fois, les agents de conservation ne sont pas super bons. Pour ne pas les nommer, là, il y a deux formes commerciales qui sont excellentes, le petit chrome et le chromolin. C'est la même molécule qui est à l'intérieur. Informez-vous. C'est drôle, en ce moment, je pense qu'ils sont en rupture de stock, là, mais c'est des gouttes qui coûtent moins cher. Si on les met de façon régulière, on arrive à des super bons résultats. Et c'est des gouttes souvent que c'est pas après 24 heures, 48 heures que ça change tout. L'efficacité complète peut arriver après quelques jours, même quelques semaines, des fois 3-4 semaines de traitement. Mais si vous êtes sensible à ça, allez voir en pharmacie, ça existe, c'est des bonnes gouttes et c'est complémentaire à vos traitements.
Si on a des questions sur n'importe quel sujet, David, on peut aller te voir.
Je pourrais t'en parler longtemps, mais oui, avec plaisir.
Ben, ça a été bien le fun, encore une fois, cette année.
Ben, je vais m'ennuyer pour de vrai. Alors,
ben oui.
J'arrête pour un petit bout, je sais pas. Je reviens sûr en septembre, je vais peut-être venir te voir.
On réécoutera les chroniques qui sont disponibles sur le cjso.ca.
D'accord.